2. Trudy gardait quelques vêtements de sport, des t-shirts et un ou deux vieux jeans dans le placard de son bureau. Lorsqu'elle fut de retour chez Gutenberg, Furs et Patel, sa première priorité fut de se changer. La seconde, d'appeler la police. C'est l'agent Paul Antassi qui prit son appel.
« Je m'appelle Trudy Damascus et je viens de me faire agresser sur la 2e avenue. »
À l'autre bout du fil, l'agent Antassi se montra très compréhensif et Trudy se prit à imaginer une sorte de George Clooney italien. Ce qui se tenait si on considérait le nom du policier et les yeux et la chevelure sombre de Clooney. Antassi ne ressemblait pas le moins du monde à Clooney, mais bon, il ne fallait pas s'attendre à des miracles et à des stars de cinéma. On était dans la vie réelle. Encore que, après ce qui venait de lui arriver au coin de la 2e et de la 46e à 13h19, heure d'été, l'agent Antassi vint vers 3h30 et elle se retrouva à lui raconter tout ce qui lui était arrivé, dans les moindres détails. Même la partie concernant les pourmillements et les ficotements, et cette certitude étrange que cette femme allait lui balancer son plat dans le dos. Un plat avec un bord aiguisé, vous dites ? Demanda Antassi, tout en griffonnant des notes sur son carnet. Et lorsqu'elle répondit que oui, il hocha la tête avec compassion. Ce hochement de tête eut pour elle quelque chose de bizarrement familier. Mais à ce moment-là, elle était trop impliquée dans son histoire pour creuser un peu plus loin. Plus tard, néanmoins, elle se demanderait comment elle avait pu être aussi naïve. C'était ce même hochement de tête compréhensif qu'elle avait vu dans les films où une pauvre fille pète un plomb, de « Une vie volée » avec Winona Ryder jusqu'à « La fosse au serpent » avec Olivia de Havilland. Mais à cet instant, elle était bien trop occupée à raconter à l'agent Antassi comment le jean de l'apparition pendait sur le trottoir, en dessous du genou. Et quand elle eut terminé, c'est là qu'elle entendit pour la première fois l'hypothèse de la femme noire déboulant de derrière un abribus. Et aussi, trop bonne celle-là. L'hypothèse de la femme noire sortant d'une de ces petites boutiques, il y en avait des milliards dans ce coin-là. Quant à Trudy, elle put inaugurer son petit laïus selon lequel il n'y avait pas d'arrêt de bus dans ce secteur, pas dans cette partie de la 46e rue, ni de l'autre côté d'ailleurs. Et aussi le laïus selon lequel toutes les petites boutiques avaient migré dans le centre depuis que le 2 Hammersholt Plaza avait poussé. Et ça devait devenir un de ses petits numéros les plus rodés. Elle finirait sans doute avec un sketch sur une future radio locale un de ces jours. Pour la première fois, on lui demanda ce qu'elle avait pris pour le déjeuner avant de voir apparaître cette femme. Et pour la première fois, elle comprit qu'il s'agissait d'une version 20e siècle du repas d'Ebenezer Scrooge, avant l'apparition de son vieux et défunt associé. Des pommes de terre et du roast beef, sans parler d'une bonne dose de moutarde. Elle ne pensa même pas à demander à l'agent Antassi si ça le tenterait de venir dîner un de ces soirs avec elle. En fait, elle le mit carrément à la porte de son bureau. Quelques minutes plus tard, Mitch Gutenberg passa la tête par l'embrasure. « Il pense pouvoir retrouver votre sac, Allez au diable !» dit Trudy sans lever la tête. « Sur le champ !» Gutenberg remarqua son teint blême et ses dents serrées. Et il ressortit sans dire un mot. 3. Trudy quitta le bureau à 5h15, ce qui pour elle était tôt. À pied, elle retourna au coin de la 2e et de la 46e, et malgré les pourmillements et les ficotements qui lui remontaient le long des jambes et dans l'estomac à mesure qu'elle se rapprochait de Hammersholt Plaza, elle n'hésita pas une seconde. Elle se tint debout au croisement, ignorant aussi bien le signal passez, piéton, blanc, que le attendez, piéton, rouge. Elle décrivit des petits cercles sur le trottoir, sans remarquer les passants qui la croisaient sur la deuxième avenue, sans un regard pour elle non plus.
« C'est ici, pile ici, je le sais. Elle m'a demandé ma pointure, et avant que j'aie pu répondre, parce que j'aurais répondu, je lui aurais dit la couleur de mes sous-vêtements, si elle avait voulu. J'étais en état de choc. Avant que j'aie pu répondre, elle a dit « On s'en fout, Susanna dicta les deux faits du 38. Sa foi à l'affaire. »
Eh bien non, elle n'avait pas complètement terminé sa phrase. Mais Trudy était certaine que c'était ce qu'elle allait dire. Et c'est à ce moment-là que son visage avait changé. Comme celui d'un comique qui s'apprête à imiter Bill Clinton ou Michael Jackson, ou peut-être même George Clooney. Et elle avait demandé de l'aide. Demandé de l'aide et dit son nom. C'était comment déjà ?
Susanna Dean, fit Trudy. Voilà comment elle s'appelait. J'ai oublié de le dire à l'agent en tassis.
Ouais. Eh bien, il pouvait aller se faire foutre, l'agent en tassis. L'agent en tassis avec ses arrêts de bus et ses petites boutiques, qu'il aille se faire foutre.
Cette femme, Susanna Dean, Whoopi Goldberg, Coretta Scott King, quel que soit son nom, se croyait enceinte, se croyait en plein travail.
Est-ce qu'elle t'a paru enceinte, Trude ?
Non,
répondit-elle. Suspendu au-dessus de la 46e rue, le passé piéton blanc vira une nouvelle fois au attendez piéton rouge. Trudy se rendit compte qu'elle était en train de se calmer. Le fait de se tenir là, avec le Dag Hammarskjöld Plaza à sa droite, avait quelque chose d'apaisant. Comme une main fraîche sur un front bouillant, ou une voix rassurante qui vous dit qu'il n'y a aucune, mais aucune raison de ressentir des fourmillements et des picotements. Elle se rendit compte qu'elle entendait un bourdonnement très doux.
« Pas un bourdonnement, »
dit-elle à voix haute, tandis que le « attendez piéton rouge » revenait au « passé piéton blanc ». Elle se rappela ce petit ami qu'elle avait eu au lycée qui lui avait dit que la pire punition karmique pour lui, ce serait de se réincarner en feu de signalisation.
Pas un bourdonnement, un chant.
Et alors, juste à côté d'elle, elle sursauta mais sans avoir peur, une voix d'homme se mit à lui parler.
C'est exact, dit la voix.
Trudy se retourna et vit un homme d'une petite quarantaine d'années.
« Je viens ici tout le temps rien que pour l'entendre. Et je vais vous dire une chose, puisque nous ne sommes que des navires se croisant dans la nuit, pour ainsi dire. Quand j'étais jeune, j'avais des problèmes d'acné effroyables. Je crois que le fait de venir ici les a soignés, allez savoir comment. »
Vous croyez que le fait de vous tenir au coin de la deuxième et de la 46e a soigné votre acné ?
Répéta-t-elle. Il sourit d'un sourire faible mais très doux, puis hésita une seconde.
Je sais que ça a l'air dingue. J'ai vu apparaître une femme, ici même, sortie de nulle part,
dit Trudy.
Il y a 3 heures et demie, voilà ce que j'ai vu.
Quand elle est apparue, elle n'avait plus de jambes en dessous des genoux. Et puis elles ont repoussé.
Alors, qui est fou déjà, l'ami ?
Il l'a dévisagée, les yeux écarquillés, pauvre insecte en transit, engoncé dans son costume, sa cravate desserrée à la fin de sa journée de bureau. Et elle voyait effectivement les anciens cratères de l'acné sur ses joues et sur son front.
« C'est vrai ?»
Elle leva la main droite.
« Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Cette salope m'a volé mes chaussures. »
Elle hésita.
« Non, ce n'était pas une salope. Je ne crois pas que c'était une salope. Elle avait peur, elle était pieds nus et elle croyait être en travail. Je regrette juste de ne pas avoir eu le temps de lui donner mes tennis plutôt que ses foutus escarpins ruineux. »
L'homme la regardait d'un air circonspect, et Trudy Damascus se sentit soudain très fatiguée. Elle eut comme l'intuition que des regards comme celui-là, Elle enverrait un paquet. Le feu passa de nouveau au passé piéton, et l'homme qui lui avait parlé se mit à traverser en balançant sa serviette. « Hé, monsieur !» Il n'interrompit pas sa marche, mais jeta un œil par-dessus son épaule. « Qu'est-ce qu'il y avait ici, à l'époque où vous veniez soigner votre acné ?»«
Rien. Rien qu'un terrain vague derrière une palissade. Je pensais que ça s'arrêterait. Ce champ merveilleux, quand ils ont commencé à construire. Mais ça ne s'est jamais arrêté. » Il atteignit le trottoir d'en face, se mit à descendre la deuxième avenue. Trudy resta sans bouger, perdue dans ses pensées. « Je pensais que ça s'arrêterait, mais ça ne s'est jamais arrêté. »«
Bon, à quoi ça peut bien rimer ?»
demanda-t-elle en se tournant vers le 2 à Merchol de Plaza. La tour noire. Le bourdonnement se faisait plus intense à présent qu'elle se concentrait dessus. Plus doux aussi. Non plus une seule voix, mais tout un ensemble. Comme un cœur. Et puis il se tut. Il disparut aussi soudainement que la femme noire était apparue.
Non, il n'a pas disparu. C'est juste moi qui ai perdu le coup de main, c'est tout. Si je restais debout ici assez longtemps, je parie que ça reviendrait.
Je suis bien cinglé, c'est officiel. Le croyait-elle elle-même? La vérité, c'était que non. Tout à coup, le monde lui parut très éphémère. Plus une idée qu'une chose réelle, sans aucune présence. Jamais elle ne s'était sentie les pieds si peu sur terre. En revanche, elle sentait ses genoux trembler et la nausée lui monter à l'estomac. Elle était sur le point de s'évanouir. 4. Il y avait un petit parc de l'autre côté de la deuxième avenue, avec une fontaine, et juste à côté la statue d'une tortue dont la carapace miroitait doucement sous le jet d'eau. Trudy se moquait des fontaines et des statues, mais il y avait aussi un banc. On était revenu au passé piéton. Trudy traversa la rue en titubant, comme si elle avait 83 ans au lieu de 38. Et alla s'asseoir. Elle se mit à inspirer lentement et profondément, et au bout d'environ 3 minutes, elle commença à se sentir mieux. À côté du banc se trouvait une poubelle ornée d'un petit panneau disant « Ne pas renverser ». Et en dessous, à la bombe rose, un étrange petit graffiti. « Vois la tortue comme elle est ronde ». Trudy vit la tortue, mais ne la trouva pas particulièrement ronde. C'était là une petite sculpture. Elle remarqua autre chose. Un numéro du New York Times roulait comme elle roulait toujours ses propres journaux quand elle voulait les garder et qu'elle avait sur elle un sac dans lequel les glisser. Bien entendu, il y avait sans doute 1 million de New York Times du jour abandonnés dans les rues de Manhattan. Mais celui-là, c'était le sien. Elle le savait avant même d'aller le repêcher dans la petite corbeille et de vérifier ce qu'elle savait déjà, en l'ouvrant à la page des mots croisés qu'elle avait presque terminée pendant le déjeuner avec son stylo fétiche à l'encre lilas. Elle le replaça dans la poubelle et jeta un œil de l'autre côté de la deuxième avenue, là où avait basculé sa façon de voir la vie. Peut-être pour toujours.
Elle m'a pris mes chaussures. Elle a traversé la rue. Elle est venue s'asseoir ici pour les enfiler. Elle a gardé mon sac, mais elle a jeté le Times. Pourquoi voulait-elle mon sac? Elle n'avait pas de chaussures à elle à mettre dedans.
Puis Trudy crut deviner pourquoi. Cette femme y avait rangé ses plats. Si un flic y jetait un œil, il se demanderait sans doute ce qu'on pouvait bien servir sur des plats tellement tranchants qu'on risquait d'y laisser un doigt en les attrapant au mauvais endroit.
Ok. Et alors, où est-ce qu'elle est allée?
Il y avait un hôtel, au coin de la 1ère et de la 46e. Autrefois, c'était l'hôtel Plaza de l'ONU. Trudy ne savait pas comment il s'appelait à présent, et elle s'en moquait. elle n'avait pas non plus envie d'aller jusque-là pour demander si une femme noire en jean et chemise blanche tachée n'y serait pas venue quelques heures plus tôt. Elle avait cette intuition très forte que c'était précisément ce qu'avait fait sa version du fantôme de Jacob Marley, mais elle n'avait aucune intention d'aller vérifier son intuition. Mieux valait laisser couler. Des chaussures, ça se trouvait très facilement dans cette ville, tandis que la santé mentale, sa santé mentale. Il valait mieux rester tranquillement à la maison, prendre une bonne douche et laisser couler. Sauf que...
Il y a quelque chose qui cloche, dit-elle.
Et un homme qui passait sur le trottoir tourna la tête vers elle. Elle lui répondit par un regard de défi.
Quelque part, il y a quelque chose qui cloche vraiment. Ça...
penche. Et le mot qui lui vint naturellement, mais elle ne le prononça pas, comme si ça risquait de faire basculer ce qui penchait. L'été fut peuplé de cauchemars pour Trudy Damascus. Dans certains apparaissait la femme, puis elle se mettait à grandir. Cela était terrible, mais ce n'était pas les pires. Dans les plus horribles, elle se tenait dans le noir, et d'effroyables carillons résonnaient, et elle sentait cette chose pencher, pencher de plus en plus vers le point de non-retour. Soliste.
Comal a la clé. Peux-tu me dire ce que tu vois? Des fantômes ou seulement ce miroir devant toi?
Qui te fait fuir? Dis-le-moi.
Cœur.
Comal a 2-3. Je te prie, dis-le-moi. Les fantômes ou les ténèbres en toi?
Qui te fait fuir? Dis-le-moi.